supporter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pouruneconstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Je resterai dans le vif du sujet, celui des retraites, bien sûr. Cette loi arrivera-t-elle à passer? Je vais donc vous présenter ce fameux calendrier. Voilà. Alors, lundi 6 février, le texte original de la réforme est présenté en séance. Peu importe les amendements adoptés en commission, depuis et pour deux semaines encore, il y aura débat dans l'hémicycle. Et ce débat s'annonce musclé. Vendredi 17 février, à minuit, le texte de la réforme fera son entrée au Sénat. S'il n'est pas adopté par les députés, s'en suivront normalement 15 jours de relecture et de débat autour du dit texte, suivi d'un vote d'adoption. Aïe, ça peut faire mal. Cette loi arrivera-t-elle à passer ? Le 4 mars prochain est la date à laquelle le projet de loi de la réforme des retraites partira en commission mixte paritaire dans le cas où les sénateurs ne l'auraient pas adopté. Si les sénateurs et les parlementaires ne trouvent pas un accord commun, le texte sera alors renvoyé à l'Assemblée nationale, qui aura le fin mot de l'histoire. Pourrions-nous encore compter sur nos parlementaires ?
Je veux juste rajouter une petite précision, c'est qu'en fait, c'est si le Sénat ne l'a pas adopté dans les mêmes textes que l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que même s'il l'adopte, mais il faut qu'à la virgule près, ce soit le même texte que l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas le cas, on revient à l'Assemblée nationale.
On retourne à l'Assemblée nationale.
C'est ce qu'on appelle la navette en général.
Et c'est pour ça que je vous disais, pourrions-nous encore compter sur nos parlementaires ? Cette loi arrivera-t-elle à passer ? Enfin, le 26 mars marque la date butoir, jusqu'à laquelle le Parlement doit se prononcer sur le texte. Si ce n'est pas le cas, le gouvernement pourrait avoir alors recours à l'article 47 alinéa 1, de notre Constitution. Tiens, un nouvel article. Donc, comme le gouvernement disait ne pas vouloir d'un passage en force pour la réforme des retraites, après 10 recours au 49-3 pour adopter le projet des lois de finances et celui de la sécurité sociale, mais là, cette loi arrivera-t-elle à passer avec un 49-3 ? Non, on va proposer le 47-1. Alors que dit cet article ? Poupa, ça va, tu es un bon article. Le Parlement vote les projets de loi de finances de la sécurité sociale dans les conditions prévues par la loi organique. Je rappelle qu'on a mis la retraite aussi dans la loi de la sécurité sociale. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de 20 jours après le dépôt d'un projet, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de 15 jours. Il est ensuite procédé, dans les conditions prévues, à l'article 45. Bon, je ne vais pas tout vous lire l'article 45, mais pour que l'article 47.1 soit appliqué, il faut quand même qu'il corresponde à l'article 45, qui dit « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique ». Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41. Oh merde ! Donc l'article 40, c'est-à-dire que ces propositions et amendements, formulés par les membres du Parlement, ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Il est pas mal l'article 40, hein ? Donc, je reprends l'article 45 pour faire appliquer l'article 47.1. Vous me suivez ? Bon, je sais, c'est pas très marrant aujourd'hui, mais malgré tout, c'est notre Constitution. Donc, lorsque par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, dans l'article 45, il est dit « un projet, une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée » ou si le gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée. Blablabla, ça continue, mais je vais pas tout vous lire parce qu'il est relativement long cet article. Sauf que là, j'ai retenu le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées, agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. J'espère que vous avez bien compris l'affaire.
Oui, et là, on rentre dans une finesse qui va suivre. Un petit truc très intéressant, moi, qui m'a toujours plu.
Tu relèveras. Donc, aucun amendement n'est recevable. Ah oui.
Justement, accord du gouvernement.
Et ben voilà, accord du gouvernement.
C'est-à-dire que vraiment, c'est un truc de fou. Et on appelle ça une démocratie.
Exactement, on appelle ça, c'est notre texte constitutionnel.
Oui, on appelle ça une démocratie. C'est-à-dire le gouvernement. Vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord. Il parle aux deux assemblées. Il faut que ce soit le texte identique pour résumer et synthétiser. Et donc, la commission mixte réunie, ils élaborent un texte commun, puisque commission mixte veut dire qu'il y a des sénateurs et des députés.
Et des députés.
Et à ce moment-là, le gouvernement soumet ce texte, et c'est à son bon vouloir s'il accepte qu'il y ait des amendements à ce texte ou pas.
Alors, voilà. Qu'est-ce qui nous reste
Extrémiste, nous appellerons ça une démocrature.
Bon. Donc, aucun amendement n'est recevable, sauf accord donc du gouvernement. Patati patata. Sauf que si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. Vous y croyez ça ? En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, avec quelques changements sans doute, soit le dernier texte voté par elle, on imposera donc un texte, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. Vaste rigolade. Bref, si on lit les articles de ce projet de loi retraite, qui finalement se mord la queue, et je sais combien de ces articles de notre Constitution sont ardus et ennuyeux, mais finalement ne règlent pas le problème. Cette loi arrivera-t-elle à passer ? Poupa, tu bailles. Je suis désolée de le dire, mais c'est important quand même de connaître les articles de notre Constitution, parce que nous en avons quand même certains qui sont à réviser aussi. Donc, vous comprenez mon refrain, chers auditeurs. Cette loi arrivera-t-elle à passer ? Donc, nous sommes passés pour le 47.1 par l'article 45, l'article 40, l'article 41, qui reprécise que, en vertu de l'article 38, tu suis Poupa, le gouvernement ou le président de l'Assemblée saisi peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le gouvernement et le président de l'Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statuera dans les 8 jours. Cet article 38 reprécise le pouvoir de l'article 47.1, il me semble. Donc, avec cet article 38, le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Alors, cette loi arrivera-t-elle à passer ?
Alors, juste à titre historique et sans une certaine ironie, rappelons que le gouvernement le président dont les gouvernements successifs ont employé le plus les ordonnances, c'était qui ? C'était François Mitterrand.
Oui, c'est vrai. On l'avait déjà dit d'ailleurs.
Mais bon. Et après un commentaire cynique de ma part, on va dire, c'est que les ordonnances, ça ressemble comme deux gouttes d'eau aux édits du roi dans l'Ancien Régime.
En fait, on a une constitution qui, malgré tout, renvoie un pouvoir à l'exécutif pas tout à fait normal et qui finalement répond à la royauté,
au système royaliste.
On tranche.
Les rédacteurs principaux, même s'il y en a eu d'autres, de la Constitution de 58 sont bien sûr Michel Debré, mais également le comte de Paris.
Donc, qui était
héritier du trône de France.
Mais ça aussi, on l'avait. Toi-même, tu l'avais dit, il me semble.
Mais c'est pour ça qu'on retrouve des
dernières chroniques.
Alors là, c'est de l'exégèse des textes de Gaulle. Mais quelque part, si on lit entre les lignes dans les écrits de Gaulle, on voit très bien que ce qu'il voulait instaurer, c'était une monarchie constitutionnelle, avec un président qui a le rôle du roi, qui n'est pas de droit divin, qui est élu, mais qui quelque part ressemble à...
Voilà.
Alors même si, avec les évolutions, les modifications et amendements qui ont été apportés à la Constitution, faut reconnaître que c'est moins... le pouvoir exécutif qui a l'intégralité du pouvoir.
Heureusement,
c'est parce tellement
qu'on a quand même
les
parlementaires, le Sénat et une assemblée constitutionnelle. Un conseil constitutionnel.
Voilà.
Donc, recourir à cette nouvelle arme politique pour pousser une réforme très contestée, c'est bien dangereux. Elle sera mal perçue par les députés eux-mêmes, nos élus représentant le peuple quand même, mal perçus par l'opposition, qui en rajoute, on le voit bien, comment ça se passe à l'hémicycle actuellement, et surtout par les Français, et encore plus par les syndicats, qui reprennent finalement un petit peu une certaine place, on va dire, suite à toutes les manifs que nous pouvons voir et qui sont quand même... Où il y a beaucoup de monde dans la rue et qui ont repris leur place. Certains syndicats ont repris leur place et même se retrouvent unis dans ce combat contre le projet de loi des retraites.
Alors, à noter que ce ne sont que des statistiques puisque c'est un sondage, mais que 92% des salariés pensent que cette réforme est injuste.
Oui. Alors, on va essayer de la décortiquer.
92% des salariés.
C'est énorme, quoi. C'est énorme.
C'est difficile de faire une telle unanimité. Bravo, le gouvernement.
Ah là, franchement, ils ont fait fort. Et puis, c'est la dernière année Macron. Alors bon, est-ce qu'ils s'en fichent? Mais enfin, bon, bref.
Pas la dernière année, il y a encore 4 ans de Macron.
Oui, enfin, la dernière, oui. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est sa dernière...
Mandature,
voilà. D'ailleurs... ce serait quand même une première dans l'histoire de la Ve République, figurez-vous. Il n'y a pas eu d'autre cas. Car cet article permettrait alors à l'exécutif de mettre en œuvre le texte par ordonnance en limitant à 50 jours le délai des débats sur la réforme des retraites au Parlement. Une manœuvre subtile, mais qui prive, et je l'ai déjà dit, le Parlement de son pouvoir législatif. On noie le poisson actuellement dans tant de propositions. D'âge, de décret, le tout plus ou moins cohérent, pas toujours explicite ou pas toujours clair. Pourquoi vouloir faire passer si vite une loi si capitale pour notre avenir et surtout les générations à venir? Notre gouvernement empêcherait-il toute discussion constructive et éviterait-il la recherche de consensus pour faire passer ce texte en force? Est-ce pour ça aussi qu'il y a tant de colère dans l'hémicycle? À se demander si le projet du gouvernement aurait un autre objectif, comme offrir les pensions au marché financier, en encourageant le recours à des fonds privés, les fameux fonds de pension, une retraite par capitalisation. En France, les fonds de pension ne représentent qu'une toute petite partie des sommes collectées pour les retraites. Mais ils existent. Un fonds de pension est un organisme qui gère collectivement les retraites ou l'épargne salariale. Ses gestionnaires sont des banques, des assureurs ou des sociétés spécialisées. Il s'agit de structures organisées par les entreprises du secteur public ou privé à destination de leurs salariés, et dont le but est de préparer leur retraite.
Alors, il existe pour le public la préfonds, ce qu'on appelle la préfonds, et pour le privé, vous avez les plans épargne-retraite qui sont de la retraite par capitalisation.
Voilà. Donc, cette gestion, elle existe. Hein. Au moment de sa retraite, le salarié peut récupérer la totalité de son capital ou bien obtenir une rente. Ce système est celui de la retraite, donc, par capitalisation. Car la pension est assurée grâce à une épargne constituée. Sauf s'il y a une faillite de l'organisme ou un krach boursier. Là, vous n'êtes pas sûr de pouvoir tout récupérer. Hein.
Alors, la crise des subprimes aux États-Unis, qui ont ruiné des milliers, voire des millions de personnes qui ont dû revendre leur maison, qui se sont retrouvés à la rue, jouir d'une retraite qu'ils avaient capitalisée, mais comme tout s'est écroulé, il n'y avait plus d'argent.
Et comme on nous parle tout le temps de l'Europe, l'Europe ceci, l'Europe cela, quoi, en fait, bref, les Français, c'est eux qui partent le plus tôt à la retraite, et en fait, on est devenus les feignants de l'Europe, quoi. En gros, mais c'est pas vrai du tout. On nous dit aussi beaucoup de choses, l'intox, ça, hein, l'intox des grands médias à nous faire croire que le français est toujours différent des autres. Ben non. Au Danemark et aux Pays-Bas, ils sont obligatoires, ces fonds de pension, figurez-vous. Et ils viennent compléter un filet social significatif et universel. C'est-à-dire que au Danemark et aux Pays-Bas, les retraites, donc comme pour nous de la sécurité sociale, sont tellement basses que eux, ils ont non pas la Clarco ou autre mutuelle qui va venir renforcer votre retraite, mais ils sont obligés de cotiser à un fonds de pension pour pouvoir compléter leur retraite. Tu voulais rajouter
quelque chose? Non, pas du tout.
Ces entreprises placent sur les marchés l'argent, bien sûr, des épargnants, pour qu'ils fructifient. Pour info, je vais quand même le dire, pour info, l'américain BlackRock est le numéro 1 mondial du fonds de pension, le numéro 1 mondial en la matière. Mais le numéro 1 européen est le français Amundi, une filiale du Crédit Agricole. T'en connais un autre?
Non, c'est bien ça.
C'est bien ça.
Au fait, je voulais revenir quand même sur quelque chose. Mais où est passé le fameux projet de M. Jospin? Où sont passées les réserves du système des retraites pour les qu'il avait créé donc en 1999? Ce fameux M. Lionel Jospin avait prévu quelque chose.
Oui, enfin, il a profité d'une embellie économique exceptionnelle qu'il y a eu au moment.
Et c'est tant mieux, parce que je crois que les Italiens fonctionnent aussi un peu comme ça.
Plutôt que de redistribuer cet argent, comme le réclamaient beaucoup de gens de la population,
il l'a placé
pour faire un fonds de réserve des retraites.
Fonds de réserve, le FFR.
Voilà.
Le fonds de réserve pour les retraites. Donc le FRR. Vous savez combien il avait prévu? 150 milliards pour anticiper et permettre à la génération du papy-boom de créer elle-même des réserves pour ne pas reporter l'intégralité de la surcharge sur les jeunes générations. En l'occurrence, ce FRR ne devait pas être utilisé avant 2020. Un louable projet que l'on peut qualifier de responsable pour cimenter la solidarité entre les générations grâce à un travail d'anticipation. Tout le monde était d'accord de constituer des réserves financières qui serviraient à équilibrer le régime général des retraites des salariés et même des autres régimes, les indépendants, des salariés agricoles et même les intermittents, entre 2020 et 2040. En clair, ces économies devait servir à alléger la charge des actifs en prévision du changement démographique, celui que nous connaissons aujourd'hui. Alors ce fonds, il n'a presque pas diminué, figurez-vous, malgré les 2 milliards de ponctions annuelles, parce qu'on a quand même été les chercher pour compléter certaines années le manque dans les caisses. Il représente aujourd'hui un peu plus de 36 milliards d'euros fin 2017. Parce que j'ai été voir, donc le titre de la loi, vous le retrouvez dans gouvernement.gouv, et c'est le fameux FFR Jospin de 1999. Vous pouvez aller voir, hein, je n'invente rien de ce que je raconte là. Hein. Donc 36 milliards d'euros, donc en 2017, il y avait ce montant-là, ouais, 36
moi,
milliards d'euros.
Je peux donner le chiffre au 31 décembre 2021, qui est plus, on n'est plus qu'à 26 milliards d'euros.
On n'est plus qu'à 26 milliards.
Et donc, rien qu'en 2021 par rapport à 2020, il a perdu 1%.
1%. Bon, il reste de l'argent ?
Oui, il reste 26 milliards.
Voilà, 26 milliards ?
26 milliards.
À l'aube d'une grande réforme des retraites, l'utilisation de ce fonds de réserve n'est même pas soulevée. Mais comment ça se fait ? Mais enfin, on n'en parle même pas. Alors que ce fameux FFR constituerait un bon fonds pour financer la solidarité et atténuer les effets de la réforme sur les revenus les plus faibles. Pas rien donc, 26 milliards d'euros tout de même. Mais la tentation était trop forte. J'ai essayé de voir, hein, j'ai retrouvé des choses très intéressantes. Donc la tentation était trop forte de faire main basse sur cette cagnotte. Au lieu de la laisser fructifier comme on l'avait prévu dans le projet, donc c'est-à-dire encore 10 ans, sans y toucher, eh bien figurez-vous, en 2010, le ministre du Travail de l'époque, cher Éric Woerth, a tenté de justifier ce détournement de fonds, estimant que, à cause de la crise financière, le déséquilibre du régime de retraite s'est déclaré 10 ans plus tôt que prévu. Ah oui. D'où le pompage dans les réserves. Ah oui. Mais c'est le principe même du fonds qui est dévoyé, puisqu'au lieu d'utiliser les dividendes d'un portefeuille pour amortir les effets d'un choc démographique, eh bien, sa réforme a débouché sur l'utilisation du capital de ce fonds, avant que le choc démographique n'arrive. Étonnement de ma part. Alors, toutes ces infos, vous les avez, hein, comme je disais, sur .gouv, et puis certaines que j'ai complétées avec Alternative Économique. Allez, je crois que j'ai quand même été assez claire, Poupa ? Ou
oui,
c'est
oui,
compliqué ?
Oui.
Non, ça va. Bon, oui. Allez, je vous laisse avec une petite chanson de François Béranger, Tranche de vie.
Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages, c'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La capitale, c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton, c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, car j'ai connu 15 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Le matin, faut aller piétiner devant les guichets de la main d'œuvre. L'après-midi, solliciter le bon cœur des punaises, des bonnes œuvres. Ma mère, elle était toute paumée, sans ses lapins et ses couvées. Et puis pour voir, essayer non, sans fric de remplir 5 lardons. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Pour parfaire mon éducation, y'a la communale en béton. Là on fait de la pédagogie, devant 60 mots en furie. En plus de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. Et sans qu'on me l'ait demandé, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À 15 ans, fini la belle vie, t'es plus un môme, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse, ça vous arrange même la santé. Pour le monde, on a de la tendresse, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. C'est pas fini. Quand on en en a un peu là-dedans. On n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de bruant en faisant des croche-pattes aux agents. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Bien sûr, la maison Poulaga m'agrippe à mon premier faux pas. Ça tombe bien, mon pote a de la veine, faut du monde pour le FLN. Je me farcis 3 ans de casse-pipe, Orescabil, Limitidja. Y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir le pays ou pas. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Quand on me relâche, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier. Y'a plus rien dedans, tout est cassé, j'ai même plus envie d'une mémé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire que je m'étais amusé à leur balancer des pavés. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Les flics, pour ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt. Le crâne, le ventre et les roustons, enfin quoi vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse, rapport à mes antécédents. Moi je peux pas dire que je sois en liesse, mais enfin qu'est-ce que c'est que 3 ans. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. En tout, je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chaussons et des balais et je pourrai me remettre à lire. Je suis né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun. Bien sûr, entouré de bocages, c'est le village de Saint-Martin. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né.
Aujourd'hui, un salarié sur 5 prend sa retraite entre 60 et 62 ans, parce qu'il a travaillé tôt. Ou alors, il attend sa retraite en pointant au chômage. En 2021, l'assurance retraite enregistre ainsi 125 546 départs anticipés. S'ajoute un petit groupe, seulement 238 personnes qui ont travaillé avant 16 ans. Pour la retraite anticipée, seuls les trimestres cotisés acquis par le travail et ceux dits trimestres réputés cotisés, qui sont 4 pour le service militaire et 4 pour les périodes de chômage, périodes qui sont donc prises en compte. Pour les femmes, nous bénéficions de 4 trimestres par enfant en tant que mère et 4 trimestres supplémentaires qui nous sont accordés pour compenser les effets sur notre retraite du congé de maternité pendant lequel vous ne cotisez plus à la retraite.
Alors, il y a une différence entre le privé et le public là-dessus.
Alors, plus maintenant.
Ah, depuis, dans le futur.
Alors, j'ai été voir, moi aussi, grand étonnement de ma part, puisque moi, je suis une fonctionnaire qui est allée de régime. Et du coup, je me suis, quand j'ai pris ma retraite, on m'a dit, alors je l'avoue, je suis à la retraite. Donc, on m'a dit qu'il valait mieux prendre les trimestres pour les enfants, parce que ça, vous le savez tout à la fin hein, de votre décompte-retraite, que vous avez encore 8 trimestres à récupérer si vous faites la demande dans le privé.
Ah oui.
Autrement, dans le public, vous n'avez que 4 trimestres.
C'est ça.
Mais je pense que la loi, alors je vous le redirai, la loi qui a aligné la retraite publique et la retraite privée, il y a des textes de loi qui ont aligné les deux, eh bien, aujourd'hui, il semblerait, que le nombre de trimestres pour les femmes soit les mêmes. Bon, de toute façon, je vais reparler de ce qu'on a le droit ou pas dans une prochaine chronique quand on va laisser un peu se décanter tout ça dans l'hémicycle et qu'est-ce qui va passer. Et la loi passera-t-elle ? Voilà. Donc, le gouvernement met en valeur le fait que ceux qui auront commencé à travailler tôt, notamment ceux qui sont passés aussi par l'apprentissage, pourront bénéficier plus facilement d'une retraite anticipée. Normal ! Ah oui, moi je trouve que c'est quand même normal, puisque jusqu'en 2014, la loi n'obligeait pas le patron à cotiser pour le jeune en apprentissage. Ce sont ceux, pour la plupart, qui auraient donc commencé à 16 ans. Il n'y en aura plus beaucoup, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc là, ils sont gagnants. Hein. Infos en vrac, bien sûr, ce sont que des infos en vrac que je vous donne là. Mais comme ça, vous voyez déjà un petit peu la complexité de cette loi, la complexité de tous ces régimes de retraite et la complexité même de notre propre retraite, publique ou privée. Donc, avec les bornes d'âge, bien sûr, le nombre de trimestres exigés selon l'âge du début de l'activité. Alors, pour info, tout ça est très précis sur le site de la Sécurité sociale. Hein. Vous pouvez aller voir, il y a deux ou trois tableaux très simples à comprendre. Vous êtes juste, vous mettez votre année de naissance et d'ailleurs, ils sont très sollicités. Donc, comme vous avez dû l'entendre, le projet de loi crée trois seuils. Ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans, ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans, et ceux les plus nombreux qui ont commencé entre 18 et 20 ans. Pour ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans, l'affaire commence à se corser, car les conditions de départ évolueraient progressivement. L'âge légal et le nombre de trimestres requis seraient augmentés parallèlement selon votre année de naissance. Donc, bien sûr, vous allez prendre 4 mois, 6 mois, au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'âge, enfin que vous allez être plus jeune dans l'âge, vous allez avoir droit à plus de trimestres, à plus de mois. Voilà. Donc là, vous pouvez aller retourner voir sur le site de la Sécurité sociale. Je reviendrai de toute façon sur le texte lui-même. Mais là, je voulais vous parler de tout ce qu'il y a en amont à comprendre. Mais quand même, les plus impactés par la loi seront ceux des années 70. Surtout ceux nés en 1973. Ils devront avoir, eux, hein, c'est l'année butoir, et pour le projet de loi en tous les cas, ils devront avoir 176 trimestres et 43 ans de cotisation pour partir à la retraite à un taux plein et en justifiant 5 trimestres avant leurs 20 ans. Voilà, donc pour les années, l'année 73, c'est quand même un peu dur. Hein. Il est dit sur le site du gouvernement.fr, oui vous pouvez aller voir aussi hein, le site du gouvernement.fr les retraites. Eh bien, il est dit dans le titre « la réforme des retraites tient compte des nouvelles réalités ». Donc, il est écrit que la moyenne d'âge d'entrée dans la vie active est d'aujourd'hui de 22 ans. Ah merde, ça veut dire qu'il aura 65 ans lorsqu'il prendra sa retraite, sans trop de chômage bien sûr, et surtout sans trop d'études. Et puis alors peu d'enfants, parce que les congés parentaux à rallonge, ça suffit. Mais non, cette loi est juste et sociale. Bien vieillir, si possible, sans soins, c'est mieux, parce que là, on est mal pour finir centenaire, les amis. Et puis, tant mieux, moins d'enfants et moins d'accouchements. Et comme nos maternités se ferment jour après jour, on voit bien que ce droit à la retraite doit être simplifié. Cette loi arrivera-t-elle à passer? De quoi je parlerai la semaine prochaine? Samedi, je pense, et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde dans la rue. Donc, la suite sera encore sur les retraites. Vous pouvez réagir sur le site www.pourunconstituante.fr. Je vous laisse avec une chanson que je découvre là avec Poupa, La porte à droite de Jean Ferrat. À la semaine prochaine.
On m'a dit tes idées ne sont plus à la mode. Quand on veut gouverner, ce n'est pas si commode. Il faut évidemment s'adapter au terrain, mettre jour après jour un peu d'eau dans son vin. On m'a dit dans la jungle, il faut qu'on se débrouille. On est bien obligé d'avaler des magouilles, de laisser dans un coin les projets trop coûteux. On va pas tout rater pour des canards boiteux. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. On On m'a dit qu'il fallait prêcher et le sacrifice à ceux qui n'ont pas pu s'ouvrir un compte en Suisse, qu'il fallait balayer tous nos vieux préjugés et que ceux qui travaillent étaient privilégiés. On m'a dit, tu comprends, tes idées archaïques ne feront qu'aggraver la crise économique. Ainsi la liberté dans un monde plus juste fait partie des slogans qui sont un peu vétustes. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. Puis d'autres sont venus, beaucoup moins présentables, qui parlaient de la France en tapant sur la table, qui disaient faut changer, c'est la loi du pendule, on va pour commencer supprimer la pilule. Ensuite il faudra bien flitoxer la vermine, rétablir la morale avec la guillotine. Et puis il n'y a qu'à virer les mauvais syndicats pour conserver celui qui plaît au patronat. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. Ils ont dit qu'il fallait se montrer réaliste, qu'il y avait du bon dans les journaux racistes, qu'il fallait nettoyer ce cher et vieux pays si l'on ne voulait pas qu'il devienne un gourbis. Dois-je vous l'avouer, ces propos me renversent quand je vais boire un verre au café du commerce. Parfois je crois revoir sur du papier jauni la photo de Pétain dans mon verre de Vichy. La porte du bonheur est une porte étroite. Qu'on ne me dise plus que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81.